Donc Joël Écussion de Mixart.
De Mixart Miris, oui. Mais bon, s'il y en a d'autres qui veulent venir à la table, parce que là je me sens un peu seul du coup, contrairement à mes petits camarades, et qui ont connu un peu cette histoire-là et qui veulent en témoigner, n'hésitez pas. Quoi. C'est dans la punk attitude de Mixart Miris, effectivement, que chacun s'est raconté son Mixart, a priori, jusqu'à présent. Donc on y va, quoi.
Écoute, tu y vas.
Allez, ya.
Tu y vas pour ta présentation.
Bon, bah alors rapidement, Mixart, ça va arriver après ce qu'on a évoqué là, c'est les années 90, milieu des années 90, donc ça a commencé de manière informelle en 95, avec l'occupation d'une friche des usines Miris, un site extraordinaire, magnifique, une architecture néo-flamande du 19e siècle qu'on trouve à peu près partout en Europe, de manière assez étonnante. Et dans cette friche-là, au départ, c'est pour l'essentiel des événements ponctuels qui vont s'y organiser de manière sauvage. Que ce soit des trucs autour des arts poubelles, que ce soit des soirées électro-indus, destroy, assez glauques et assez détonantes. Et puis petit à petit, des gens vont s'installer, et puis des gens très divers. Ça va être des sans-papiers particulièrement issus du Grand Maghreb, ça va être des artistes, des pseudo-artistes, et puis des gens qui vont être les 3-4 à la fois, des gens en rupture sociale, comme on dit un peu proprement, ou des clodos, autrement dit. Et puis c'est tout ce petit monde-là qui va petit à petit prendre possession des lieux en lieu de création, en lieu de vie, qui vont donner naissance à ce qui deviendra ensuite Mixart Miris, qui va se structurer en assaut, etc. Donc un milieu très interlope avec des chocs culturels extrêmement forts. Vous pouvez imaginer, il y avait donc un labo, je pense à Eric Leca et Marco Pifflinger et toute cette bande-là, Yorga, qui avait un labo de musique expérimentale Indus, qui de temps en temps se foutait une armoire en métal sur la gueule et donc du coup partait en courant à travers le site à poil avec la gueule ensanglantée. C'était des images fortes comme ça qui pouvaient suggérer de la pratique sur le lieu, en contraste avec nos amis issus du Maghreb qui, même si n'étant pas du tout pratiquants, baignaient et trempaient dans une culture musulmane. Et c'est tous ces contrastes-là qui ont donné lieu à cette envie, sous l'égide du système D du quotidien, pour rendre possible le lieu, que ce soit en termes d'électrac, de flotte, etc., qui ont fait que ces gens-là ont appris à se connaître et à faire ensemble. Donc, on va. Peut-être que la punk attitude vient aussi du fait que nous aussi, on niait le passé d'une certaine manière. On était là pour faire, pour du faire, et pas du tout pour se référer à quelque idéologie que ce soit, à quelque pensée que ce soit, qu'elle soit philosophique ou artistique, une espèce de déni comme ça de mouffetard, de grande gueule, quoi, on va dire. Et dans ce qui était intéressant dans ce déni-là, c'est que, y compris à l'époque, on avait tout un milieu militant politique qui a été très bien évoqué ce matin, qui revenait voir un peu ce qui se passait dans ce truc, cette espèce de Key West grandeur nature, avec notamment la CNT qui nous avait sollicité pour venir participer de la vie politique du lieu, et on leur avait dit, ah mais non, nous l'action politique c'est pas ça, nous c'est dans le faire, dans le quotidien, dans l'instant, et puis dans l'artistique, dans le geste, qu'il soit mature ou pas, et puis du coup ils avaient trouvé le truc de proposer une chorale, donc je vous fais un petit récit anecdotique, une chorale, et donc nos amis scientistes, ils sont rentrés dans Mixart via la constitution d'une chorale, et ça a été assez détonnant parce que pendant plusieurs années ça a donné lieu à des Noëls avec nos amis musulmans qui vivaient là en permanence, avec les gens de toute la mouvance espagnole, résistance espagnole, toute la mouvance activiste, pour certains un peu fatigués, mais toujours bien vivants. Et ça donnait lieu à des trucs complètement surréalistes, dadaïstes, on peut le dire, mais très chaleureux et très humains. Quoi. Et puis là, on voyait des très vieux militants, je pense à Maria notamment, qui avait un grand plaisir à venir passer ses Noëls à cet endroit-là, avec les gens qu'elle pouvait y rencontrer. Peut-être que c'est là un peu la spécificité de Miris, c'est que dans cette rencontre de gens un peu improbables, c'était peut-être assez unique sur Toulouse, qu'il y a en croisement une mixité de cette nature-là, quoi, dans le fait d'occuper un lieu en tout cas. Donc ça va pendant 2 ans, on va faire de l'empirisme comme ça, et puis à un moment donné, on va commencer à remettre des mots finalement sur ce qu'on fait, sur ce qu'on vit, et c'est là qu'on va commencer à parler d'apéros généreux hebdomadaires, qui par la suite deviendront des assemblées générales, une fois qu'on aura structuré ça en association, mais qui resteront malgré tout bien des fois et bien souvent des apéros généreux. C'est là qu'on va commencer à mettre en avant les histoires de participation libre et nécessaire, d'autogestion, de comment effectivement on s'implique dans un quotidien à la fois à faire vivre un lieu dans sa physicalité, dans sa technicité, et comment aussi on fait vie, et comment on fait aussi art. Voilà pour comment ça s'est passé pendant 2 ans. Et en 97, on avait négocié des accords avec les propriétaires. Il y avait 2 propriétaires privés à l'époque, et eux préféraient effectivement avoir ce qu'ils croyaient être des gentils artistes. On avait quand même un abonnement à l'hôpital du coin, parce que des fois les discussions étaient très enlevées, on va dire. Donc jamais rien de très grave, hein. quelques égratignures, mais un peu de couleur, quoi, dans le noir et blanc de la grisaille toulousaine hivernale. Et donc les proprios préféraient avoir cette présence-là plutôt que de se dire qu'à un moment donné, leur bâtiment allait cramer. Alors qu'il y a eu énormément de risques, évidemment, vous en doutez, dans la précarité dans laquelle on était les uns les autres, pour maintenir un lieu de manière à peu près tenable. Donc en 97, on perd les 2/3 du site parce que le propriétaire... On commence des discussions, pardonnez-moi, il y a un intérêt du politique qui commence à se dire « Ah ouais, là, il se passe un truc un peu détonnant, des artistes, une proximité avec les voisins, certains qui effectivement nous appréhendent bien, d'autres par contre qui nous considèrent comme des rats, qui sortent des égouts et qui sont un peu envahissants. » Et puis cette mixité-là qu'on voit effectivement de manière un peu exceptionnelle. En 97, quand on entend parler que le proprio a l'intention de vendre, on provoque une réunion avec les pouvoirs publics. Et donc ce sera la première réunion et la première démarche légalisante, on va dire, de Mixar Miris. Et qui est sûrement lié, je pense là aussi, aux potes sans papier qu'on a été amené à sortir des centres de rétention, à défendre pour certains, à arriver par différents processus à leur trouver des papiers, d'autres à trouver des apparts, etc. Donc il y a eu toute cette militance-là qui, d'une certaine manière, accompagnait les artistes, quelle que soit la nature de leur travail et leur univers premier, qui se sont engagés de fait, quoi, de par les amitiés qui se créent, de par les relations qui se créent, les relations humaines qui se créent. De fait, il y a eu cette forme de militance, entre guillemets, qui s'est créée dans la quotidienneté. Et cette légalisation, on voyait bien comment les potes y galéraient, quoi, dans le fait de ne pas avoir leurs papiers. C'est peut-être ça, effectivement, qui nous a amené à un moment donné à se dire on a la foi d'utilité publique, et donc on n'a aucun complexe à réclamer de l'argent public. Et c'est peut-être réinventer le service public ou un service public de la culture que d'affirmer que ces lieux-là, ces aventures-là, aussi aléatoires, aussi improbables soient-elles, sont nécessaires dans notre système plus largement partagé, ou qui tente d'être partagé. On se dit que ça peut venir de ça. Bon, toujours est-il qu'on a été dans cette démarche-là de légalisation, à essayer de discuter avec le politique. Évidemment, on s'est très vite fait rouler dans la farine, pendant que d'un côté, il nous disait que c'était intéressant ce qui se passait là. De notre côté, il laissait effectivement faire la vente du lieu sans faire valoir leur droit de préemption ou quoi que ce soit. Donc on perd les 2/3 du site, donc là c'est urgence, il faut loger les gars sans papier, il faut loger les potes SDF, pour ceux qui le souhaitaient en tout cas évidemment, etc., etc. Et on se retrouve sur un dernier bâtiment du site qui était 3 plateaux de 500 mètres carrés avec tous les problèmes que vous pouvez imaginer de promiscuité. Hein. Il y avait une réelle diversité à cette époque-là déjà. Quoi. Je vous ai parlé de la Boanka avec ses musiques indus, mais il y avait les bêtes qui passaient par là déjà à cette époque-là, il y avait des artistes plasticiens avec les articles dégrippants, des gens comme Nicolas Priva, comme Nocé, qui font partie aussi de ces disparus de nos longues histoires, comme Renaud, comme Sandra à l'époque, des théâtreux, des formes expérimentales, d'autres plus classiques, mais qui restaient assez rarement dans la durée, de par la pugnacité des relations humaines assez extrêmes, et à la fois magnifiques de par leur extrême, qui se vivaient à cet endroit-là. Donc quand on perd les 2/3 du site, du coup, on décide d'initier des occupations illégales et légitimes pour faire valoir, parce qu'on ne pouvait pas rester dans juste ce 3 x 500 mètres carrés les uns sur les autres. Et on décide donc d'initier ce qu'on appelait des occupations illégales et légitimes. Et la première, donc, ça a été en 2000, au mois d'avril, le 1er avril 2000. Et donc avec le soutien de toutes les radios libres de l'époque, On a fait une pré-campagne assez fulgurante sur la ville. Mixart va ouvrir un lieu. Ceci n'est pas un peu poisson d'avril, c'est le 1er avril. Et fort de ça, le principe a été... Alors à cette époque-là, on a essayé de faire ça de manière horizontale, avec un groupe, tous les potes, allez, on va ouvrir un lieu. Puis très vite, on s'est rendu compte qu'on restait d'éternels gamins et que ça prenait des airs de colonie de vacances. Donc ce sera la première et la dernière fois qu'on organisera des occupations, en tout cas dans le repérage des lieux et la technicité de l'ouverture d'un lieu. Ce aura été la première et la dernière fois où on aura fait ça vraiment beaucoup. L'ouverture du lieu a lieu, bel et bien, et immédiatement c'est l'installation des ateliers, quels que soient les médiums artistiques, vu que ça on y était attaché aussi, on voyait que là il y avait quelque chose qui se jouait aussi dans cette pluri et possible transdisciplinarité. Et puis c'était 3 jours de programmation, et donc je me rappelle quand on a ouvert, c'était avenue de Muret et l'ancienne ANSAT, école d'ingénieurs en agronomie, un énorme site de plus de 10 000 mètres carrés avec une pisciculture, avec des anguilles grosses comme ça, parce que ça faisait un moment qu'elles étaient en autonutrition, et nous on les a cuisinées, hein, elles étaient vachement bonnes. Et puis, merci Madame Cacahuète. Et puis, de cette occupation-là qui a duré assez peu de temps, on a fait valoir une culture de l'engagement du collectif. C'est-à-dire qu'on a les politiques ont commencé à se déplacer, à venir sur site, sur place, et à se rendre compte qu'effectivement, vu que la programmation, je me rappelle de Félix Laputaragne qui avait participé des concerts de l'époque, dans des conditions complètement sauvages, hein. On n'arrivait pas à rebrancher l'électricité, on a ramené très vite un groupe électrogène qu'on n'arrivait pas à faire démarrer, enfin, c'était assez rock'n'roll on va dire, et lors de cette occupation-là, très vite l'INP qui était propriétaire a refusé de quelques négociations que ce soit, et donc on a dit, écoutez, nous maintenant il nous faut au moins 15 jours pour redéménager et sortir des lieux. Donc pendant ce temps, on a continué à faire de la programmation, on a continué à faire vivre le lieu. Et puis on a surtout rendu lisible ce rapport de force, vu qu'à l'ouverture du lieu, sur les 3 jours de programmation, c'était plus de 7 000 à 9 000 personnes qui se sont déplacées. Quoi. Ben, le 11, c'était plusieurs personnes. Quoi. C'était les gens qui étaient là à l'époque, c'était les gens qui étaient impliqués dans l'histoire au moment. Quoi. Donc c'est pour ça que j'emploie ce terme impersonnel, parce que tout ça bouge avec le temps. Dans le temps, mais il y a toujours du « on » renouvelé, et puis avec certains qui sont là depuis un certain temps, ou un temps certain, et puis des nouvelles personnes qui tentent de s'approprier, de poursuivre cette histoire-là. Quoi. D'où le « on ». Donc, culture de l'engagement, parce qu'on a les politiques qui venaient donc visiter le lieu, nous rendre visite, pour soit nous soutenir, soit nous dire « bon, déconnez pas, il faut que vous dégagez, que vous libériez la place ». On leur a dit, nous on va la libérer, la place, mais si vous dites que ce projet-là est intéressant, à un moment donné, il va falloir que vous en fassiez la démonstration et qu'effectivement vous concrétisiez un lieu comme celui-là. Donc c'est là qu'on a posé, on va dire, le premier acte de la culture de l'engagement de Miris. Quand Miris prend un engagement, il s'y tient. Et vous-même, cher politique, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous branlez avec cette idée-là de l'engagement? De là, on retourne sur notre base arrière. On continue à faire vivre le lieu avec les contraintes que je vous ai expliquées. Et puis on réinitie une nouvelle occupation. Et là, on trouve des locaux de la mairie. C'est un an après, grosso merdo. On n'a pas réussi à ouvrir le 1er avril, on a ouvert le 11. Et c'est en face le Théâtre Garonne, l'actuel Théâtre Garonne, qui, plus malin que nous, a réussi à en récupérer une partie. Ou mieux placé que nous, on va dire, notre ami Jackie Voyon. Mais on a occupé tout ce site-là pendant, et là, ça a duré près de 2 mois. On était à un an des élections municipales, et là, pareil, même principe, installation des ateliers, programmation artistique, 9 000 personnes, grosso merdo, et donc un rapport de force correctement posé, on va dire. Et donc là, on arrive à réunir Baudis, Isard, Malvi, et le directeur de la DRAC de l'époque, qui s'appelait Lagrange, et où tout le monde se met d'accord pour dire « mais oui, Mixart, on va trouver une solution, bien sûr ». Libérer les locaux, et puis on s'engage tous les uns les autres, et puis là on se tient les uns les autres, et donc vous n'avez pas de soucis à vous faire. Nous on avait trouvé un local à la location, donc il était question qu'on sorte et qu'il loue et qu'il prenne en charge la location de ce local-là, qui était du côté de la place Héraclès, Et puis finalement, le proprio se rend compte de qui on est avec le tapage presse, média. Et donc évidemment qu'une fois qu'on sort, le proprio ne veut plus louer à ces espèces de va-nu-pieds, de sauvages, dont on ne sait trop définir s'ils sont des artistes ou des alcoolos ou des camés. Donc de là on retourne sur notre base arrière, on agite toute la ville, tous les recoins pour trouver des solutions. Et puis voyant qu'ils n'en viennent pas, le proprio du local qu'on occupait encore à Saint-Cyprien-Patedois souhaite vendre. Donc là, de la même manière, on s'était engagé à libérer les locaux une fois qu'ils vendaient. Et donc du coup, ça nous amène à ouvrir l'ancienne préfecture en plein cœur de Toulouse. Le 9 janvier 2001, à 3 mois des élections municipales. Et donc là, ça a été ça avait de la gueule quand même, quoi, ancienne préf, haute représentation de l'État, on va dire, autre représentation de l'État. Et puis de même principe d'ouverture, même impact public, on va dire, même impact de la population et des gens présents lors de l'ouverture. Et là, cette occupation, ce qu'on n'aurait jamais cru, a duré finalement quasi 5 ans. Quoi. 5 ans à la CNPREF avec des va-et-vient, des menaces d'expulse quand on commençait à trop intervenir sur les façades en termes de peinture, des menaces d'expulse quand on commençait à monter en resto associatif ouvert sur le quartier et sur la rue avec le flip des questions d'hygiène et de sanitaire, enfin avec des va-et-vient comme ça avec la préfecture, mais avec un dialogue, on va dire, d'une certaine manière permanent, et avec une espèce de jeu de lâchage de responsabilité, avec des courriers récurremment envoyés, signés du préfet. Nous vous sommons de ne pas faire cet événement public, et nous, vous comprendrez bien, monsieur le préfet, que si nous ne le faisons pas, ce sera des troubles à l'ordre public bien plus conséquents que de ne faire l'événement en question. Et donc, nous le faisions, évidemment. Donc ça a toujours été dans cette forme de résistance amusée, enfin on s'est bien marré, puis je pense qu'on continue à bien se marrer. Là actuellement, Myris, donc il y a eu un processus de légalisation suite à cette occupation. Oui, rapidement, il y a eu le passage de Sarkozy, ministère de l'Intérieur en 2003, et qui avait son plan d'action pour Toulouse, pour la sécurité à Toulouse, en 7 points, si je me souviens bien. Et on était arrivé en deuxième point, donc on était quand même vachement fiers, quoi. Et puis on s'est dit, putain, ce Sarko, mais quel chargé de com' extraordinaire, c'est merveilleux. Et du coup, on a lancé, on était en deuxième place après les intégristes islamistes, c'est quand même ça de la gueule, quoi. Et donc, Arupa, un squat est un squat, une atteinte à la propriété, il ne pouvait pas dire privé, puisque c'était un bâtiment public que l'on occupait. Et puis donc, ça ne saurait durer. Et puis finalement, ça a encore duré, même si ça a quand même mis à ce moment-là une grosse pression sur le préfet. Et là, on s'est amusé à organiser un référendaire où on a interrogé, proposé aux Toulousaines et Toulousaines, Jeanne Dissier d'ailleurs, de se prononcer. Est-ce qu'une une aventure artistique et humaine au cœur de la ville, telle que Mixart vous en voulez, avec un bureau de vote installé dans la préfecture, avec des actions sur les places publiques en déplaçant les urnes, j'allais dire les urinoirs, pardonnez-moi, les urnes et les trucs pour voter, là, les isoloirs, pardon, et puis de l'action artistique en parallèle. Et là, on a eu plus de l'appareil, on est toujours autour des chiffres de 9 à 10 000 votants, et avec un score absolument faramineux, digne du République bananière, de 99,8% pour. Et donc voilà. Et donc on a envoyé une lettre de remerciement à Nicolas Sarkozy, quand même, pour ses qualités de chargé de com'. On n'a pas eu de réponse à ces remerciements, on était un peu désappointés. Donc en tout cas, toujours est-il qu'en 2005, avec cette tension, cette mise en tension du préfet, on finit par trouver une solution. Enfin, c'est nous qui la trouvons une fois de plus. Hein. Manifestement, les pouvoirs publics sont incapables de faire preuve d'imagination dans leur patrimoine pour proposer ce genre de lieu de création articulé à de la diffusion et à des espaces de vie, à une autre manière d'imaginer la relation art, œuvre, artiste, territoire, habitant, enfin pour employer tous les genres de vocabulaire que l'on veut à cet endroit-là. Donc cette légalisation, elle se passe au lieu qu'on occupe encore, là, au 12 rue Ferdinand Lassalle, où on s'est tenu peinard pendant près d'un an. Puisqu'il n'y avait pas les normes accueil public, on avait eu quand même un truc intéressant, c'est qu'on avait obtenu une maîtrise d'ouvrage pour faire les premiers aménagements. Alors faut pas rêver, hein, c'était 120 000 euros, enfin, pour certains ça pourra paraître énorme, pour aménager 4600 m2 c'est que dalle. Et donc c'est 120 000 euros qu'on a pu maîtriser complètement, choisir notre architecte, pouvoir mettre en place des chantiers en autoconstruction, négocier les marchés avec les entreprises privées auxquelles on a fait appel, etc. Donc ça a été l'expérience de l'installation, et puis au bout d'un an on se rend compte que plus rien ne bouge, maintenant qu'ils nous ont sorti de la préf, sorti de la pseudo, de l'illégalité pour nous mettre dans une pseudo-légalité, il ne se passait plus rien. Donc là on leur a proposé de payer une structure aux normes accueil public, un ancien manège d'auto-tampon, et on l'a installé sur le parking. On a fait de la programmation pendant près de 4 mois, avec toujours des formes XP un peu pointues à des endroits, d'autres plus consensuelles, on va dire, avec toujours ces contrastes-là, avec des contrastes assez osés. Hein, c'est ce que nous font comme retour, en tout cas, certains artistes, où des fois on a des écritures de programmation qui peuvent surprendre, détonner. Et puis où finalement, en résultat et en expérience de partage, les artistes sont super ravis finalement à l'arrivée. Quoi. Et donc, c'est pas ça que je voulais en venir, pardonnez-moi. Mais donc, on met en place cette structure, ça cartonne pendant 4 mois. Et là, on leur dit, bon ben voilà, maintenant il faut que vous décidiez. Vous voyez bien que la création, la monstration, l'avis que tout ça génère, l'inscription sur le quartier, nos voisins, voisines, ceux qui nous détestent, ceux qui nous adorent, ceux que l'on aime, ceux que l'on emmerde, est-ce que vous vous décidez pour concrétiser le truc? Et comme ils ont dit, ben non, on n'est pas encore prêt, bon ben on leur a dit, ben nous, on retourne à notre illégalité première, on refait des événements et on vous emmerde. Et donc voilà, on est reparti pour faire des événements de manière publique. Pour autant, ils n'ont pas coupé leurs subventions. Pour autant, ils sont restés dans une forme de dialogue. Parce qu'à savoir qu'actuellement, maintenant, Myris, c'est quand même 500 000 euros de budget, grosso merdo, par an. Pour que ça en choque certains, c'est fait exprès. Non, je rigole. Et c'est 500 000 euros de budget par an, c'est une équipe de 6 personnes et c'est un autofinancement à hauteur de 50% sans valoriser l'autogestion. Et quand on valorise l'autogestion, donc toute la participation, l'énergie que mettent les artistes du collectif dans la tenue du lieu et les propositions artistiques qu'ils peuvent faire, et ça monte à 70% d'autofinancement et 30% de financement public. Donc ça devient quand même une machine qui est bien usante à des endroits, mais qui a peut-être quelque chose d'un peu magique, voire mystique, des énergies qui se renouvellent en permanence et qui permettent à cette histoire encore de perdurer, encore d'exister. Et cette bagarre qui continue, puisqu'on avait, en fin 2012, on croyait avoir, j'ai presque terminé, hein, fin 2012, on croyait avoir réussi le braquage de l'année, autrement dit 9 millions d'euros, puisque avait été voté un budget de 9 millions d'euros par Toulouse Métropole pour un projet de relocalisation aux Cartoucheries, sur le quartier du côté de l'avenue Grande-Bretagne. Donc un projet qu'on avait complètement maîtrisé dans sa définition en termes de programme, de programme architectural, et négocié pied à pied en termes de budget, en étant assujetti aux logiques de marché public, donc c'est ce qui fait aussi monter les chiffres, faut en avoir conscience. Là, on ne pouvait pas négocier la maîtrise d'ouvrage, je veux dire, et donc pouvoir mener les travaux comme on le souhaitait. Et puis la gauche a laissé traîner. Alors je ne sais pas s'ils avaient peur, comment c'était engagé à l'époque en 2001 avec les motivés par deux fois sur le champ électif municipal, peut-être qu'ils craignaient qu'on revienne encore emmerder un peu, jouer les trublions, les pique-culs dans le cadre de ces élections, et du coup ils ont laissé traîner manifestement quand même de manière un peu volontaire, hein, parce qu'il a fallu les stimuler pendant le quinquennat Cohen, hein, pour arriver à cette solution là. Et puis, il ne repasse pas. Et donc là, on se retrouve avec Moudin, avec qui on avait négocié la légalisation, la pseudo-légalisation dans laquelle on est. Dans un premier temps, tout va bien. Et puis, patatras, audit financier de la ville. Évidemment, les finances sont dans un état catastrophique, vous imaginez bien. Et donc, on ne saurait donner 9 millions à des va-nu-pieds, d'autant plus qu'on a des projets quand même un peu plus ambitieux pour la ville, et notamment un auditorium qui devrait coûter 30 ou 40 patates, et qui en coûtera le double encore si on le fait en plus à la prison Saint-Michel. Mais ça, c'est des détails de la politique locale, on va dire, n'est-ce pas? Et donc de là, on se retrouve finalement de nouveau dans cette situation, où là, finalement, il faut le savoir, en être conscient, on est squatteur de fait, puisqu'on a refusé de signer la convention de mise à disposition des locaux. Et pour terminer, donc, sachez-le, là on a, ils étudient un scénario d'achat mais qui reste improbable, et là du coup on n'écarte plus du tout le scénario de retourner à une occupation illégale et légitime, comme on le disait à l'époque.
Et il y a des vieilles rockeuses qui sont prêtes à y aller, c'est formidable.
Merci, merci Joël pour cette. Je crois qu'on peut l'applaudir pour cette présentation d'une réinvention du service public. Je crois qu'il y avait des images à montrer, non ? Tu peux peut-être dire deux mots ?
Oui, si vous voulez, on peut effectivement vous montrer un petit film qui a été réalisé par TV Bruit pendant l'occupation à l'ancienne préfecture. Et c'est une image qui nous fait marrer parce que. Mais vous verrez, vous comprendrez sûrement pourquoi. C'est a priori la seule fois, la première et la seule fois, où des CRS ont refoulé dans leur squat des squatteurs.
On se tient prêt à rentrer en communication directe avec les paysans de San Salvador, Atenco, Mexico.
Ah mais je vous le dis, je ne peux pas vous laisser barrer la rue de Metz pendant une heure, donc dégagez gentiment le piano. Ben oui, on leur dit qu'il faut qu'ils dégagent. Voilà. On ne va pas laisser barrer la rue pendant une heure, ça fout la panique dans toute la ville. Donc, voilà. On demande gentiment de dégager.
Tout le monde est prêt.
Alors pour préciser, en fait, ça se passait en 2002. C'était l'entre-deux-tours où on voyait Chirac face à Le Pen. Donc il y avait tous les copains qui manifestaient dans la ville, évidemment, anti-Le Pen. Et nous, on a eu le plaisir de vouloir soutenir des paysans de San Salvador Atenco qui étaient expulsés de leur terre pour la construction d'un aéroport. Donc on était un peu en décalage.
Aux Toulousains et Toulousaines, aux Françaises et Français.
Reciban un fuerte abrazo y un saludo combativo lleno de rebeldía. Rebeldía incrustada en nuestros machetes. Florecientes de estas tierras aztecas donde resurgió nuestra historia.
Recevez une forte accolade et un salut combatif plein de révolte, révolte incrustée sur nos machettes florissantes de ces terres aztèques où ressurgit notre histoire. Que l'on ne s'y trompe pas, les machettes, c'est parce que là-bas il ne reste que ça pour se battre contre la répression du gouvernement mexicain.
Hermanos y hermanas, el pasado 22 de octubre, el señor Fox y toda su bola de servilistas lamebotas del imperialismo devastador lanzaron un decreto expropiatorio de más de 6.000 hectáreas sin pedir ninguna autorización a nosotros, los campesinos, dueños de estas tierras.
Frères et sœurs, le 22 octobre 2001, Monsieur Fox, président du Mexique, et sa cour de serviteurs, lèche-botte de l'impérialisme américain, dévastateur, ont décrété l'expropriation de plus de 6000 familles, sans nous consulter, nous autres, paysans et propriétaires de ces terres.
Porque son herencia que nuestros abuelos nos dejaron y la hemos trabajado desde la época de nuestra Revolución Mexicana. Estas tierras son el sustento de nuestras familias, por eso no las vendemos y seguimos defendiéndolas.
Ces terres sont l'héritage que nos grands-parents nous ont laissé et nous la travaillons depuis l'époque de la Révolution mexicaine. Elles nourrissent nos familles. Aussi, elles ne sont pas à vendre et nous continuerons à les défendre.
El proyecto del aeropuerto internacional tiene como objetivo la mundialización para continuar sometiendo a la América Latina y saquear todos nuestros recursos naturales. Esta aberración es producto del capital extranjero yanqui.
Le projet d'aéroport international à Mexico a pour objectif la mondialisation, continuer à soumettre l'Amérique latine et piller toutes nos ressources naturelles. Cette aberration est le fruit du capital étranger américain.
Nous avons passé plus de 6 mois défendant nos terres sous pression et humiliation. Nos machettes. No bajaremos nuestros machetes ni nuestra bandera porque la tierra se ama y se defiende. Seguiremos marchando junto a organizaciones fraternas que conocen la represión del gobierno foxista.
Nous résistons depuis 6 mois, défendant nos terres sous les pressions et humiliations. Nous ne laisserons pas nos machettes ni notre drapeau, car il faut aimer la terre, la défendre. Nous continuerons à nous joindre aux organisations fraternelles qui souffrent de la répression du gouvernement de M. Fox.
Hoy nos amenazan con órdenes de aprehensión y creen que con eso van a callar al pueblo. Pues no lo lograrán. Cuando el pueblo se levante con la libertad,
sembrarán
los poderosos.
Aujourd'hui, on nous menace avec des mandats d'arrêt. Ils croient faire taire le peuple, ils ne parviendront pas.
quand le peuple se soulève pour la liberté et la terre, les puissants tremblent.
Exigimos la revocación inmediata del decreto expropiatorio.
Nous exigeons l'annulation immédiate du décret d'expropriation.
Demandamos un cese al hostigamiento represivo por parte del gobierno federal y estatal.
Il faut faire barrière, il faut faire
nous demandons l'arrêt du harcèlement répressif de la part du gouvernement fédéral et de l'État mexicain.
Nuestras tierras no se venden, mucho menos nuestra historia.
Nos terres ne sont pas à vendre, encore moins notre histoire.
No al aeropuerto internacional, proyecto del imperialismo yanqui.
Non à l'aéroport international, projet de l'impérialisme américain.
No a la división organizada entre Cuba y México por el gobierno de Fox.
No a la división organizada entre Cuba y México por el gobierno de Fox.
No a la restricción de palabra en los pueblos donde hay guerra y represión.
No a la parole suprimée au peuple, partout la guerra, la represión existe.
Un pensamiento para ustedes, franceses y francesas, no a la paz.
Non à toute forme de fascisme, une pensée particulière pour vous, françaises, français, non à Jean-Marie Le Pen.
Fraternalmente, los pueblos por la defensa de la tierra desde San Salvador a Tempo, abril 19, primavera de 2002, valerosamente nos despedimos de ustedes y les agradecemos todo lo que han hecho por nosotros. Muchas gracias, Toulouse, Francia.
Le 19 avril, printemps 2002, malheureusement, nous disons au revoir et sommes au gré de tout ce que vous avez fait pour nous. Merci beaucoup, Toulouse, Francia.
El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido.
Pénétrer à l'intérieur si jamais les forces de police se décidaient à charger.
Bon, rentrez, monsieur, tranquillement. Faites-les rentrer, parce que ouais, ouais, on n'est rien. Non, on ne peut pas les... Mais je ne sais pas que ça dure. Toute la ville est en froid.
Non, ouais, mais attendez. C'est tout ça, vous allez regarder.
La circulation est bloquée par.
Ouais, mais ça peut rentrer dans 10 minutes. Non,
c'est l'avenir de vos enfants, monsieur, qui est en jeu.
Non, je ne peux pas. Votre... Vous avez fait votre...
avant de les balancer. C'est des confettis, c'est des signes de joie. On ne leur donne pas raison. Pacifique Resistencia.
Pourquoi ils
doucement, messieurs. Messieurs, doucement. Veuillez rentrer à l'intérieur. Laissez tomber. Le signe fort a été donné à San Salvador à Tempo. Veuillez rentrer à l'intérieur. Ne leur donnons pas raison.
Expulsés de leur terre pour la construction d'un aéroport,
à côté de Mexico, et qui subissent en ce moment la répression gouvernementale. Ils sont dans un état de quasi-guerre civile. Nous espérons qu'en France, nous n'arriverons pas à ces extrémités-là. Merci, messieurs en uniforme, de nous avoir permis encore aujourd'hui de ne pas faire la démonstration, qu'on pouvait en arriver là.
Donc on peut arrêter là le film éventuellement. Hein. Donc encore une fois, nous, ça nous fait marrer. Hein. Je ne sais pas comment vous l'avez vécu, nous, mais avec le recul, en tout cas, ça nous fait marrer. Que ce soit bien clair. Et à savoir quand même que pendant ce temps-là, on était en lien direct donc, avec les paysans qui faisaient une marche au même moment sur Mexico, où contrairement à la cinquantaine, petite centaine peut-être, qu'on était là, eux, ils étaient des dizaines de milliers, voire centaines de milliers, et ils marchaient donc sur Mexico. Et le fait d'être au courant de ce qui se passait sur Toulouse, imaginant sûrement qu'on était plus nombreux, sûrement que c'était à la hauteur de ce vers quoi ils se dirigeaient en allant sur Mexico, ça leur paraît-il filer une putain de niaque d'enfer qui fait qu'eux, ils ont fait prisonnier des militaires mexicains lors de cette marche sur Mexico. Et ils les ont tenus en otage pour demander la libération de militants qui s'étaient fait par ailleurs arrêter en amont de cette grande marche sur Mexico qu'ils ont fait à ce moment-là. Voilà, c'était pour juste le mot de la fin, et merci à vous.
Bien, merci Joël, je crois qu'on peut applaudir une fois de plus.